Allez, bonsoir à toutes et à tous. On a un certain nombre d'absences, ce qui fait qu'on va peut-être pouvoir un peu se prendre un peu plus de place. Ça sera, enfin, si vous le souhaitez, on va déjà faire l'appel pour voir ça. Bonsoir à toutes et à tous, et à celles et ceux que je n'aurais pas vus, bien évidemment, il est encore temps de vous souhaiter plein de bonnes choses pour 2022. De la santé, du bonheur. Bonne année à toutes et à tous. Je vais proposer à Marina Bancon, si elle veut bien être notre secrétaire de séance, de pouvoir démarrer l'appel.
Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors, monsieur Charles Daillot, monsieur Hervé Bayard, madame Marie-Christine Bourdieu, monsieur Farid Eba, madame Eliane D'Arteiron, madame Catherine Piquet, monsieur Gilles Chauvin, madame Geneviève Darieussecq, absente, donne pouvoir à monsieur Mathieu Arra, monsieur Jean-Marie Badby, absent, donne pouvoir à monsieur Charles Daillot, madame Chantal Planchenot, madame Janine Lamaison, absente, donne pouvoir à madame Catherine Piquet, monsieur Bruno Ruffia, absente, donne pouvoir à madame Claudie Breck, madame Pascal Horry, monsieur Philippe Hérault, Marina Bancon présente, madame Marie-Christine Arambat, monsieur Pierre Merlet-Bonan, absent, donne pouvoir à monsieur Hervé Bayard, monsieur Jean-Jacques Gourdon, madame Nathalie Gasse, madame Marie-Pierre Gazot, monsieur Hicham Lamsika, absent, donne pouvoir à madame Delphine Leblanc, madame Claudie Breck, monsieur Philippe Demarnix, monsieur Christophe Ourcade, monsieur Mathieu Arra, monsieur Mathis Capdeville, madame Delphine Leblanc, madame Nathalie Garcia, absente, donne pouvoir, madame Delphine Leblanc, monsieur Jean-Baptiste Savary, madame Céline Pio, absente, donne pouvoir, madame Françoise Cavagnier, monsieur Alain Bachet, madame Françoise Cavagnier, monsieur Frédéric Dutin, absent, donne pouvoir à monsieur Jean-Baptiste Savary, madame Françoise Latrabe, et madame Marie Lafitte.
Merci, Marina Bancon. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Nous avons une dizaine de délibérations. Elles sont toutes aussi importantes, mais une délibération qui peut prendre un petit peu plus de temps dans la présentation, qui peut être un peu attendue aussi, qui est la délibération qui concerne le concours de maître d'œuvre pour l'agrandissement et la modernisation du musée d'Espiau-Vléric. Mais avant cela, je vous propose d'échanger sur les décisions que j'ai été amené à prendre précédemment. Savoir si vous avez des questions par rapport aux différentes décisions. Madame Lafitte, pardon.
Oui, je vous remercie, monsieur le maire. Une question sur les décisions 0271 et 0272, comme vous en doutez. Il s'agit de deux emprunts de 2 250 000 euros, soit 4,5 millions au total. Et bon, je pose la question à chaque fois, mais je n'ai toujours pas compris à quoi servaient ces emprunts. Il est précisé que c'est pour financer les investissements de 2021. Mais voilà, j'aimerais bien que vous m'expliquiez de façon claire et précise à quoi ça sert, s'il vous plaît.
Alors, je vais essayer de vous retrouver les détails de ces décisions pour vous les lire. Vous m'avez dit c'est 271.
Si ce sont les détails qui sont en annexe, je les ai lus.
Non.
D'accord. Oui, 0271 et 0272. Alors,
oui, en fait, alors, ce que je vous propose, ce n'est pas forcément évident de forcément saisir tout ça, ce sont des empreintes d'équilibre budgétaire, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément causées sur un investissement. Ce sont des empreintes d'équilibre qui sont budgétisées au BP 2021 et qui permettent d'équilibrer et de financer nos investissements. Donc ces prêts-là, de ce qu'il m'est dit, je n'ai pas la fiche sous les yeux, n'ont pas un objet bien particulier. Ce n'est pas forcément un prêt qui est lié à un investissement. Voilà. Alors après, peut-être que je suis tout à fait disposé à ce qu'on puisse prendre du temps, pour ceux qui le souhaitent d'ailleurs, à ce qu'on revienne un petit peu sur ces mécanismes d'équilibre, d'emprunt d'équilibre. Mais il ne s'agit pas d'un endettement supérieur à ce qui était prévu au budget. C'est simplement un ajustement. Est-ce que vous souhaitez, sur ces sujets financiers, que l'on prenne du temps peut-être en invitant ceux qui le souhaitent en commission finance pour
oui,
revenir.
Moi je veux bien, s'il vous plaît.
Ouais, oui, d'accord. Donc je vous propose de le faire peut-être indépendamment de notre assemblée. Il peut y avoir en effet des emprunts qui sont complètement fléchés sur un investissement. Puis après, il y a des emprunts qui servent à l'équilibre, tels qu'ils sont budgétés, pour pouvoir faire un ensemble de dépenses sur un budget. Est-ce que vous aviez par contre d'autres questions sur d'autres décisions ? Bon.
Oui,
si. Allez-y, pardon.
Toutes mes excuses. Oui, sur les abonnements au parking Saint-Roch et le parking du Lamont, qu'est-ce qui justifie les hausses conséquentes ?
Est-ce que Gilles Chauvin veut dire quelque chose ?
Oui, ça marche, là ? Oui, ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas augmenté les tarifs des stationnements. Et vous savez qu'à l'heure actuelle, on avait un budgétairement, avec le Covid et tous les allègements qu'on avait fait au niveau parking, on était très déficitaire sur ce budget. Et je pense que c'était l'année où on pouvait commencer à augmenter un petit peu les tarifs en deux parkings et en enclos. Vous savez qu'on est resté avec 2 heures de gratuité sur l'ensemble des parkings qui ne sont pas en enclos. On a continué à faire 1 heure de gratuité dans les parkings en enclos, qui peuvent être renouvelés d'ailleurs au cours de l'année, de la journée, et également une gratuité entre midi et deux. Donc pour nous, c'était un rattrapage, si vous voulez, de financier qu'on n'avait pas pu faire les années auparavant à cause du Covid. Voilà, tout simplement.
Est-ce que vous avez besoin d'autres informations sur des décisions ? Allez-y, Madame Gazot.
C'est pas forcément sur ces décisions-là, mais je ne sais pas si c'est une décision du maire. Depuis le mois de septembre, donc je ne suis plus adjointe au maire, je suis conseillère municipale et je crois être la seule dans cette salle à ne pas avoir d'indemnité de conseillère municipale. Donc je voulais savoir les raisons du fait que je ne reçoive pas d'indemnité comme tous les conseillers municipaux ici présents.
Alors, j'essaie de vous répondre, puis je vous recevrai peut-être pour vous le dire, parce qu'en fait, ça dépend des délégations. Donc, s'il n'y a pas de délégation, je crois qu'il n'y a pas d'indemnité qui sont...
Alors, il y a une délibération du 2 juin 2020 qui...
Il y a une indemnité ?
Il y a une délibération du 2 juin.
Ouais, alors, oui. Il y a une indemnité, y compris pour des personnes qui n'ont pas de délégation. Après, il y a des niveaux d'indemnité.
Oui.
Donc, vous n'avez pas reçu d'indemnité récemment ?
Ah, je n'en ai pas reçu ni récemment, ni depuis le mois de septembre dernier.
D'accord. Donc on me dit que ça va se régulariser. Voilà.
Ça va se régulariser.
Alors après, il y a différents niveaux d'indemnité en fonction des délégations.
Je sais bien qu'il y a un niveau 1, niveau 2, voire aucun niveau. Mais
A priori, non. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a toujours une indemnité.
Exactement, tout à fait. Et je voulais savoir, parce qu'effectivement, je me suis rapprochée des services. Et a priori, il n'y avait pas de... Il y avait un refus de cette indemnité, donc je voulais savoir si c'était une erreur. Mais depuis le mois depuis le mois d'octobre, je n'ai reçu aucune indemnité, donc je voulais quand même le signaler.
Très bien, on est en mars. N'hésitez pas la prochaine fois. Je crois que vous savez où est mon bureau, à venir me le dire ou à le dire à l'accueil pour qu'on regarde immédiatement. Mais on va le régulariser.
Ouais. Je veux profiter de cette intervention pour vous interpeller parce que semble-t-il, il n'y a pas que ces erreurs-là qui se renouvelle. Il y a eu, semble-t-il, encore en fin d'année, des problèmes par rapport au versement des salaires au niveau du personnel. C'est quand même un problème récurrent et qui demande réponse. Et quand on parle de retard, j'ai été interpellé par un salarié qui n'a toujours pas eu son 1er mai payé. Donc ça date de beaucoup plus longtemps que la problématique qui vient de vous être soulevée. Donc pour éviter dans les jours qui viennent qu'il y ait des problématique et que ces choses-là se renouvellent, mettez tout en œuvre pour que les choses puissent se régulariser. Ce n'est pas la première fois que j'interviens sur ces questions et je trouve qu'on n'y met pas beaucoup de volonté pour que ce soit réglé. Alors j'espère qu'en 2022, c'est un vœu que je fais, que vous puissiez mettre toute votre énergie pour que ces choses-là, qui peuvent paraître bénignes, ben parce qu'on ne les traite pas, mais pour moi ce n'est pas bénin, pour que ça puisse être réglé. Merci, monsieur le maire.
Alors, il y a deux choses différentes. Bon, il y a cette indemnité qui est liée à un arrêté. On va regarder pour cette régularisation et la prochaine fois, on peut se voir directement là-dessus. Et en effet, nous avons, depuis quelques mois, à régler, non pas un dysfonctionnement, mais une problématique dans les saisies de variables de paye, etc. Vous savez, les postes de gestionnaire de paye sont des... Le profil de gestionnaire de paye est un profil... difficile à trouver ou difficile à former. Donc nous avons en effet à fiabiliser tout ça. Je peux vous garantir que tout est fait. Alors il y a eu quelques retards sur quelques jours, pas sur l'ensemble des salariés. Ça s'est joué à 2-3 jours, ce qui est toujours trop par rapport à... Alors on est dans les clous par rapport à ce que l'on doit, c'est-à-dire régler avant la date du 31. Hein, mais c'est vrai que, y compris d'ailleurs à Noël, il est quand même de bon ton de pouvoir le faire le plus tôt possible. Donc il y a eu en effet... quelques retards là-dessus. Je m'en suis expliqué d'ailleurs directement avec les salariés qui ont pu faire remonter ça et je peux les comprendre. Et sachez que j'ai donné comme directive à la DGS et à la DRH de pouvoir mettre toute notre énergie de façon à ce que ces retards-là se résolvent. Il y a quand même un système de saisie qu'il faut de plus en plus fiabiliser, automatiser, numériser avec des contrôles, je ne rentre pas dans les détails, qu'il faut essayer de fiabiliser. Et d'essayer de, non pas déshumaniser, mais un petit peu moins être en manuel et un peu plus en automatique. Et c'est des progrès que nous devons faire, qui ne datent pas d'aujourd'hui, que nous faisons, et sur lesquels on met une priorité. Donc il y a, soyez, alors rassurez, sachez que c'est une préoccupation que j'ai, pas de chaque jour, mais très très régulière et très forte. Et on y met toute notre énergie pour pouvoir fiabiliser ce process, parce que vous avez dit c'est bien, non, c'est essentiel, la fonction d'une... direction des ressources humaines, c'est d'abord de payer les gens le bon montant au bon moment. Voilà. Alors là, on regarde. Là, alors sur ces sujets-là, quand il y a un sujet, là, je vous parle moi d'un train de paye qu'il y a pu y avoir sur tel ou tel service, où il peut y avoir un ou deux jours de retard par rapport à ce qui se faisait d'habitude. Ça, c'est ça qu'on traite. Après, sur des cas bien précis où il y a eu un mauvais paramétrage, puisque le système remonte, chaque service remonte des paramétrages d'heures sup et autres, et puis ça doit rentrer dans une moulinette qui doit, voilà. À mon sens, ça doit progresser encore en termes d'automatisation. Mais donc sur ce cas précis, alors peut-être on ne va pas en parler là, mais ce sera intéressant qu'on l'évoque de façon à ce qu'on puisse agir vite. Au courant, d'accord. Je considère que le paragraphe des décisions a été...
Monsieur le maire, s'il vous plaît.
Je ne vois pas.
C'est moi. Pascalori.
Oui, pardon.
Je voudrais intervenir. Je m'étonne que personne ne vous ait interpellé sur la décision que vous avez prise pour la nomination d'un avocat pour le dossier de Madame Dussion contre la ville de Mont-de-Marsan. Il s'agit d'un dossier dans lequel intervient la compagne de Monsieur Dutin, qui est dans le même cabinet que lui, contre la ville de Mont-de-Marsan, ce qui me paraît être nettement plus gênant, voire relevant d'un conflit d'intérêts, que les deux conjoints d'élus qui rentrent comme bénévoles à la Régie des Fêtes. Et je tenais à le souligner, puisqu'on m'a fait un procès d'intention sur cette arrivée à la Régie des Fêtes, je tiens encore à préciser qu'ils sont bénévoles.
C'est rigolo, hein. Alors, quand on fait une intervention un tout petit peu virulente, cher Pascalori et donc cher consoeur, on se renseigne au préalable. Car, en l'occurrence, puisque vous évoquez Cathy Mira, et c'est assez désagréable, elle n'intervient plus sur ce dossier. Donc, avant de dire n'importe quoi, renseignez-vous. Elle n'intervient plus sur ce dossier. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a eu effectivement un dossier qui m'a été confié. Vous évoquez des noms. Je suis d'ailleurs assez étonné comme ça qu'en pâture et en qualité d'avocat, vous puissiez citer des noms. Eh si, vous évoquez Madame Dussion. Attendez, attendez. Je parle. Donc vous évoquez effectivement des noms en qualité d'avocat que vous citez en pâture sur des procès. Ça me paraît un tout petit peu particulier d'un point de vue déontologique. Peut-être que le bâtonnier s'y intéressera. Mais ça, c'est autre chose. Moi, je réponds. Et je vous dis que cette cliente, qui est une cliente qui a un procès contre un tiers, en l'occurrence, Monsieur X, dont moi, je ne citerai pas le nom, il y a eu un recours qui a dû être fait contre un arrêté de la ville de Mont-de-Marsan. Et en l'occurrence, et les yeux dans les yeux, et très clairement, Cathy Mira n'intervient pas dans ce dossier. Renseignez-vous.
Alors, je vais répondre que petit 1, je n'interviens pas ici comme avocat, mais comme élu. Petit 2, je vous allez me laisser finir, s'il vous plaît. Que petit 2, la décision, elle est dans tous les dossiers du conseil municipal, donc les noms sont cités. Et que petit 3, à l'heure où on parle, sur télérecours, c'est encore Cathy Mira qui intervient. Fin de mon intervention, je ne répondrai plus.
Écoutez, non, attendez, monsieur le maire,
juste, si vous permettez, c'est moi qui je vais vous donner la parole.
Vous distribuez, mais là, c'est les claques qu'on distribue, si vous voulez.
Alors, si c'était le cas, je vous garantis que vous le sentiriez.
Oui.
Juste, peut-être, alors, vous voulez parler, peut-être, alors, allez-y. Et puis après, ce que je vous propose, alors, j'ai été mis au courant de cette intervention par l'élu récemment, mais je veux pas, moi, rentrer et passer 3 heures là-dessus. Je vous propose de répondre, après, si vous voulez vous exprimer, puis après, on va passer à autre chose, si vous voulez bien.
Alors, que les choses soient extrêmement claires, parce que on évoque, c'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire que on évoque un dossier dans lequel moi je me refuse à entrer. Je me refuse à entrer dans un dossier professionnel. Oui, non, mais donc je veux dire que c'est assez extraordinaire d'accuser sans que moi je puisse, parce que j'ai moi mes critères déontologiques et le respect de mes clients, sans que je puisse divulguer quoi que ce soit. Donc je vous dis et je vous répète qu'il n'y a pas, au moment où je cause, de conflit d'intérêts. Et qu'en tout état de cause, rien n'interdirait une consoeur, fût-elle Cathy Mira, d'exercer des recours contre la ville de Mont-de-Marsan, qui aujourd'hui peut interdire à un avocat ou à un collaborateur de cabinet d'exercer sa profession contre des arrêtés qui ont été pris par la ville de Mont-de-Marsan dans la mesure où ça n'est pas moi. Et vous le savez parfaitement, nos cabinets juridiquement, parce que c'est important, je pense qu'il faut vous le rappeler, nos cabinets sont totalement indépendants. Ce n'est ni ma collaboratrice, ni mon associé, ni associé dans le cadre d'une société, ni associé de moyens, ni dans le cadre d'une SCI. Ça n'est absolument pas juridiquement une subordonnée.
On ne va pas reprendre nos règles de déontologie que vous connaissez,
s'il vous plaît.
Que vous connaissez parfaitement. C'est simplement que je rappelle que c'est votre compagne et que je pense qu'elle n'est pas bénévole comme nos compagnons avec ma collègue. Non, mais c'est vous qui avez commencé.
Mais vous confondez tout, vous racontez n'importe quoi.
On va essayer d'arrêter.
Vous confondez tout.
On finira ce débat un petit peu après, si vous voulez bien, monsieur Dutin. Je vous propose. Alors,
oui, on essaye
de.
Monsieur le maire.
Allez-y. Voilà. Et après, on essaye de clore le chapitre.
Ah, mais écoutez, l'intervention ne vient pas de l'opposition, je tiens à le signaler quand même. Donc, juste dire une chose. Il ne faut pas mélanger les activités professionnelles et les gestes, et les, comment dire, les affaires de la ville, qui sont gérés effectivement par des bénévoles. Or, le compagnon de Mme Oury a été nommé dans une instance qui gère les affaires municipales. Ça n'est pas son métier. En revanche, le fait que Mme Mira traite un dossier, c'est son métier. C'est totalement différent. Et il faudrait peut-être, Mme Oury, je vous invite à réfléchir un petit peu ce soir au calme et à apprendre à faire la différence entre ces choses-là.
Faut-il
on vous fera un petit rappel sur les conflits d'intérêts.
Faut-il dans ce cas-là que nous vous soumettions au préalable les dossiers que nous allons devoir prendre dans le cadre de notre activité professionnelle. Mais je parle de moi, mais je crois que la sœur de Jean-Baptiste Savary est également avocate. Est-ce qu'il va falloir que les uns et les autres nous vous donnions au préalable la liste des dossiers qui sont les nôtres pour que nous en obtenions quitus. Non, mais c'est très désagréable, monsieur le maire. Ne me dites pas que vous n'étiez pas au courant de ça.
Je viens de vous dire. Et là,
maintenant, effectivement, que vous voyez que ça tourne vinaigre, on passe à autre chose. Je trouve que c'est extrêmement désagréable. Et surtout, ce qui est désagréable, c'est qu'on est en train d'aller sur des terrains qui, normalement, sont des terrains du respect de la vie privée des personnes qui nous confient leur dossier. C'est minable.
Je vous demande maintenant si on peut passer à autre chose. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur les décisions? Non. Alors, je vous propose de... La culture adoucit les mœurs. Je vous propose de rentrer dans une délibération qui est quand même majeure, a priori, sur ce conseil municipal. Et je vais tout de suite laisser la parole à mon adjoint à la culture, qui est Philippe de Marnix, pour vous présenter tranquillement le concours de maîtrise d'œuvre de l'agrandissement et de la modernisation du musée d'Espiau-Vlérick et la désignation du lauréat. Et puis vous expliquer le process et rentrer après aussi dans le fond du dossier, au-delà du process, de pouvoir aussi échanger sur un dossier qui est un dossier majeur sur ce mandat. Philippe de Marnix.
Merci, monsieur le maire. Donc, nous avons en effet essayé d'adoucir les mœurs. Donc, il s'agit maintenant de voter au sein de cette délibération pour la prise de deux décisions. La première concerne la désignation du groupement d'architectes lauréats du concours de maîtrise d'œuvre lancé dans le cadre de l'agrandissement et la modernisation du musée d'Espiau-Vlérick. Et la seconde concerne le versement de la prime de 15 000 euros hors taxe prévue par la délibération du conseil municipal en date du 8 mars 2021 à l'ensemble des candidats ayant remis une esquisse. Le musée d'Espiau-Vlérick est réputé pour son patrimoine bâti remarquable, composé entre autres du donjon La Cataille, entre guillemets, inscrit au monument historique. Il s'agit en fait non pas d'un donjon, mais de deux maisons fortes jumelées, datant du XIVe siècle et qui faisaient partie des anciennes fortifications de défense de la ville. Cet ensemble était surmonté d'un crénelage décoratif, c'est moi qui le qualifie ainsi, au siècle suivant, d'où certainement ce surnom de donjon qui est resté dans le langage courant. En 1860, Antoine Lacaze, un ancien maire et propriétaire du dit donjon, en a fait don à la ville pour y loger les troupes qui sont restées jusqu'à leur déménagement à la caserne Bosquet en 1875. Diverses affectations civiles se sont ensuite succédées jusqu'à la création du musée en 1968. Parmi ces affectations, on peut retenir que le donjon a servi de pensionnat de jeunes filles, de salle de gymnastique, d'atelier municipal, et ainsi de suite. Les autres bâtiments médiévaux sont la chapelle située au nord, donc du donjon, et la maison du Baleine à l'ouest. L'ensemble a été complété en 1982 avec la création d'une galerie consacrée aux expositions temporaires. Le musée, donc, occupe une superficie actuellement totale de 2000 m², dont la moitié à peu près est dédiée à la présentation des collections. Le fonds de sculptures figuratives du XXe siècle est unique en France et reconnu d'intérêt national. Les collections réunissent près de 2400 sculptures et un important fonds d'art graphique, des dessins essentiellement, de plus de 11 000 œuvres. Au début du siècle dernier, la sculpture occupait une place assez symbolique dans l'ancien musée municipal, consacré essentiellement aux collections archéologiques et d'histoire naturelle de son fondateur, le pharmacien Pierre Dox du Baleine, musée qui se trouvait d'ailleurs ici, si je ne dis pas de bêtises. C'est au cours des années 1960 que ce domaine a connu un accroissement considérable autour des deux œuvres des deux sculpteurs montois bien connus, Charles Despiau et Robert Vlérick. Ce fonds est augmenté au fil du temps de nombreuses acquisitions, de dépôts de l'État, de l'Aigle, de fonds d'atelier et d'un important dépôt du mobilier national rassemblant des œuvres de l'exposition internationale de 1937, exposition qui s'était déroulée à Paris, je le rappelle. Aujourd'hui, la collection couvre une période allant de 1850 à nos jours, avec des œuvres de toute taille, des plus monumentales, certaines atteignent les 5 mètres de haut, jusqu'à de petites pièces préparatoires parmi les plus fragiles. Et en 2017, l'équipe municipale a sollicité les équipes du musée pour conduire une évaluation de la situation de cet établissement. Cette mission menée avec les différents services de tutelle, dont la DRAC, les musées de France, et ainsi de suite, a donné lieu à la rédaction d'un projet scientifique et culturel qui est un préalable indispensable à toute rénovation d'un musée de France. Il en est ressorti que le musée, dans son état actuel, dispose d'importants atouts, mais également d'un certain nombre d'handicaps, en particulier l'inadéquation des locaux existants pour remplir les missions fondamentales d'un musée moderne et répondre aux attentes du public d'aujourd'hui. À la suite de ce constat, il a été confié une mission de programmation à la société d'ingénierie Vitam, qui a permis de dresser les objectifs principaux de cet important chantier de rénovation. Donc, parmi ceux-ci, on retient essentiellement le fait de moderniser le musée et de dynamiser son parcours de visite, de le réaménager en agrandissant les surfaces consacrées aux collections, d'en améliorer la fonctionnalité et l'accessibilité, là, il y a beaucoup à faire, et également de faciliter le flux des œuvres en créant des réserves fonctionnelles proches des salles d'exposition, ce qui facilitera leur rotation et le renouvellement de l'exposition permanente. L'enjeu de ce projet étant, vous l'avez sans doute compris, de renforcer l'attractivité du nouveau musée et d'en faire un pôle de rayonnement pour Mont-de-Marsan, et ainsi de faire accroître son taux de fréquentation ce qui générera des recettes supplémentaires nécessaires pour soutenir son activité. Un autre enjeu important pour notre musée est de disposer d'un espace de qualité pour la tenue d'expositions temporaires de bon niveau, celle-ci est un important vecteur d'attractivité et de fidélisation du public. Et c'est donc sur ces bases que le Conseil municipal, par délibération du 8 mars, a autorisé le lancement d'une procédure de concours restreint de maîtrise d'œuvre pour l'agrandissement et la modernisation du musée. L'avis de concours a été lancé le 15 mars 2021 et 89 équipes se sont portées candidates à la suite de cet appel à candidature. Le jury, réuni le 26 mars 2021, a opéré un classement au vu des critères suivants. La pertinence de la composition et de l'organisation de l'équipe, la garantie professionnelle, la qualité des références fournies et l'adéquation de celles-ci avec le projet. Il était proposé d'admettre à concourir 5 équipes suivantes. Le groupement Atelier Novembre, le groupement Baudouin et Engel Architectes, le groupement Bernard Desmoulins, le groupement Vurpass et le groupement Frénac et Julien. Conformément aux dispositions du Code de la commande publique, les candidats admis à concourir par le maître d'ouvrage ont été destinataires le 9 juillet 2021 des documents nécessaires à l'établissement de cette esquisse. Après une visite du site et plusieurs échanges de questions-réponses entre les équipes et la maîtrise d'ouvrage, les esquisses ont été remises le 10 novembre 2021. L'ouverture des plis et l'anonymisation des dossiers ayant été réalisés, un comité technique s'est réuni afin d'étudier les offres et le jury s'est réuni le 10 décembre 2021 afin d'examiner les projets et de les classer au vu des critères annoncés dans le règlement de concours. Vous avez pu prendre connaissance de la composition des membres du jury dans les documents qui vous ont été remis avec le procès-verbal et les projets des 5 candidats et vous avez pu constater sans doute que les élus ont pu bénéficier de l'expertise de nombreux spécialistes en la matière, notamment donc les architectes des différentes instances nationales, régionales et locales. Et vous avez pu lire dans ce même procès-verbal que le projet de l'agence Vurpass est ressorti largement tête du classement effectué par le jury. Et j'ajoute, ayant moi-même fait partie du jury, que ce projet, excusez-moi, c'était la discussion d'avant, qui revient en tête, pardon, que ce projet a obtenu l'adhésion de l'unanimité de ses membres, ce qui mérite d'être souligné. Nous avons notamment apprécié l'adéquation générale du programme, le respect du patrimoine existant et les beaux volumes d'exposition apportés par la galerie qui ceinturera harmonieusement les jardins situés à l'est du donjon, avec toutefois une remarque qui a été prise en compte par le cabinet sur la nécessité de diminuer sensiblement les surfaces vitrées de cette galerie, ceci afin de ne pas distraire l'expérience de visite et de tenir compte des exigences de conservation des œuvres exposées. Et donc, il est demandé à l'Assemblée de désigner le lauréat du concours au vu du procès-verbal du jury figurant en annexe de la délibération. Une procédure négociée passée sans publicité ni mise en concurrence sera engagée par la suite avec le lauréat du concours pour la conclusion du marché de maîtrise d'œuvre. Et contrairement à ce qui est indiqué, le marché ne repassera pas en commission d'appel d'offres. Par ailleurs, c'était le deuxième point, tous les candidats ayant remis une esquisse conforme aux prescriptions du règlement de concours, il est proposé que la prime de 15 000 euros hors taxe fixée dans la délibération du 8 mars 2021, suisse visée, soit versée en totalité à l'ensemble des équipes. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques. Je suis à votre disposition pour y répondre, ainsi que mes collègues élus qui ont fait partie du jury. Sinon, monsieur le maire, je vous propose de passer au vote de cette délibération.
On va échanger un petit peu sur... Merci beaucoup de cette présentation. Avec des planches là qui sont à votre disposition... Vous voulez prendre la parole, oui. Mme Cavagnier.
Tout d'abord, nous tenons à vous dire que nous voterons pour ce projet muséal, car nous pensons que Mont-de-Marsan détient un patrimoine inestimable dans le domaine de la sculpture, qui mérite un nouvel écrin accessible à tous. Ce projet nous a séduits sur le plan architectural, car il concilie harmonieusement les vestiges du passé et la nécessaire modernité que l'on attend d'un musée au XXIe siècle. Ce projet est respectueux de l'environnement par le choix de ses matériaux, bois, verre. Il a pour vocation d'embellir les jardins existants et il se tourne vers la ville. Nous adhérons à ce concept. Toutefois, le plan financier nous interpelle, car si la culture n'a pas de prix, elle a tout de même un coût. 21% de plus que l'enveloppe prévue au départ, c'est déjà beaucoup, et à l'arrivée. Nous connaissons les impondérables qui font augmenter l'enveloppe budgétaire et celle de la ville, qui a d'autres projets en cours, n'est pas extensible. Peut-être faudrait-il revoir à la baisse certains éléments du projet afin qu'il puisse entrer dans l'enveloppe prévue par le cahier des charges. Nous souhaiterions savoir si vous avez établi un budget prévisionnel concernant le fonctionnement et les coûts du futur musée, car les établissements relevant du public sont hélas souvent déficitaires. Parce que ces questions restent en suspens, nous émettons des réserves à ce projet, qui cependant nous tient à cœur, parce qu'il est porteur d'un rayonnement culturel pour notre ville. 2 années durant lesquelles le musée sera fermé s'offrent à nous. 2 années qui ne doivent surtout pas être des années blanches. 2 années où il nous faudra préparer le terrain qui devra faire de notre ville la capitale de la sculpture. Faute de quoi, le nouveau musée ne sera qu'un écrin vide et surtout un gouffre financier. Je vais vous raconter une petite anecdote. En juillet dernier, alors que je me rendais avec mon compagnon à l'office du tourisme afin d'acheter des billets pour le spectacle organisé par le festival de Tréteaux, j'ai assisté à la déconvenue des touristes qui, munis de leur guide, demandaient où se trouvait le musée. L'hôtesse, souriante mais un brin ennuyée et confuse, s'est vue obligée de leur annoncer que le musée était fermé. Faute de solution alternative, il n'est plus resté à ces touristes que la possibilité de se tourner vers la statue de la plongeuse ou de regarder le confluent. Dans ces 2 étés à venir, il ne faut plus que cette situation se reproduise, car elle dégrade l'image de la ville. C'est pourquoi nous devons élaborer des solutions alternatives au musée et rechercher des idées originales, vivantes, qui doivent donner aux touristes comme à nos citoyens l'idée que Mont-de-Marsan pense, vit et respire à la sculpture et que le futur musée n'est pas un début dans ce projet, mais un aboutissement. Parce que nous sommes et que nous serons toujours force de proposition, voici ce que nous vous soumettons. Pardon. Quitte à déplacer des sculptures pour laisser le champ libre aux travaux, autant envahir la ville de sculptures résistantes à l'extérieur, comme l'avait initié Philippe Labeyrie avec la complicité du sculpteur César en 1988. Il est certainement possible d'imaginer des promenades ludiques autour des statues, un jeu de piste géant qui permettrait d'aller de sculpture en sculpture pour chercher des indices et reconstituer une phrase. Cette idée a été testée avec succès par la ville de Châteaubourg en Ille-et-Vilaine, qui est similaire à la nôtre. Cette ville de Châteaubourg a également proposé, sous l'impulsion d'une artiste locale, un projet de sculpture participative. Autour d'un thème qui, dans cette ville, était le bien-être, les établissements scolaires, les associations et les citoyens ont imaginé et réalisé ensemble une œuvre monumentale qui est devenue la sculpture emblématique de la ville et que tout le monde s'est appropriée. Pourquoi, tout simplement aussi, ne pas prendre en photo nos plus belles œuvres du musée et les exposer sur des panneaux le long des berges afin de créer une déambulation artistique. Déposons des sculptures sur nos ronds-points d'entrée de ville, ainsi que sur celui du Sablard, avec des messages qui interpellent les visiteurs sur le fait qu'ils entrent dans une ville dont l'identité est la sculpture et qu'un musée se prépare. Et pour cela, sollicitons nos artistes locaux, nos graffeurs, nos peintres. Nous avions déjà proposé que la statue de Condorcet, invisible place Pancaud, trouve du sens devant un établissement scolaire. Et au lieu du lycée Duruy, que nous avions proposé, nous proposons maintenant le lycée Charles Despiau. Pourquoi ? Pas seulement parce que cet établissement porte le nom d'un sculpteur emblématique de la ville, mais surtout parce que les étudiants en BTS de ce lycée ont obtenu la somme de 3 000 euros lors du budget participatif initié par le conseil départemental pour un projet de revégétalisation du parking de leur établissement. Et qu'il nous semble que bâtir un jardin devant un lycée autour de la sculpture de Condorcet a du sens. Consultons les artistes locaux qui fourmillent d'idées, mélangeons les différentes formes d'art, associons les citoyens pour dès maintenant construire un projet vivant autour de la sculpture qui participera à la redynamisation du cœur de ville et lui redonnera du souffle. Merci.
Je vais te donner la parole, Philippe, si tu veux bien. Juste, je dis un petit mot. Sur la partie financière, je veux dire un ou deux mots. D'abord, je voudrais vous remercier et saluer la position que vous avez, avec les réserves que vous émettez. Je suis content que nous ayons cette position-là, mais j'en doutais pas. Sur la partie des idées que vous émettez, je pense que toutes les idées qui sont émises sont bonnes à prendre. Elles se traitent aussi en commission culture, mais il y a bien évidemment des idées. Peut-être Philippe en dira un mot, parce qu'il ne faut pas qu'on ferme complètement pendant 2 ans et qu'on n'ait plus accès à ça. C'est passé la moto. Oui, c'est une somme. Et nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est un sujet où j'ai alerté pas mal d'interlocuteurs à tous les niveaux. Et nous sommes confrontés avec des plus-values, peut-être liées au Covid. Le Covid a des fois bon dos, mais enfin c'est un peu ça aussi, qui sont en fonction des matières premières, des coûts, etc., qui peuvent osciller. Ensuite, nous avions 5 projets. Un était dans le match financièrement. Les autres étaient un peu en dépassement. Nous avons fait le choix de prendre celui qui était en dépassement. Enfin, nous avons fait un choix collégial de celui qui était. Parce qu'on voulait. Le seul paramètre financier ne pouvait pas justifier de garder le moins cher. Donc, c'est en effet un investissement important qui aujourd'hui est budgétisé et planifié. C'est-à-dire que nous avons fait en sorte, avec les financiers et les élus qui gèrent ça, de pouvoir isoler les montants suffisants pour pouvoir réaliser cette dépense. Donc ce musée se fera. Bien évidemment, et là je vous rejoins, et c'est d'ailleurs une des conclusions du jury, c'est que nous avons choisi ce cabinet Viurpas, mais sans en changer la totalité, parce que sinon il faudrait repasser en concours. Il y a des évolutions que nous allons demander. Alors il y a des évolutions... technique, Philippe de Marnix en a parlé, sur les percées plus discrètes pour opacifier un peu, avoir peut-être un peu moins la luminosité, mieux apprécier les œuvres dans la partie un peu coursive et galerie, retravailler des liaisons entre les espaces d'exposition, la chapelle et le donjon, voilà, il y a des choses un petit peu à retravailler, et trouver des pistes pour faire baisser le budget prévisionnel, bien évidemment. Arrivera-t-on à le faire revenir, puisque c'est à peu près 20% de dépassement, dans un contexte où, même au-delà de ça, on a quand même les problématiques de matières premières, etc. En ce moment, sur le bâtiment, on le voit dans d'autres chantiers, qui ça pose vraiment un problème. Mais en tout cas, on a bien évidemment noté que nous voudrions, et c'est là où nous challengeons nos lauréats, de façon à rentrer dans l'enveloppe qui était prévue au départ. Quand je dis ça, c'est voilà, 20%, pour nous, ça nous paraît trop élevé. Donc il faut la réduire, est-ce que ce sera pile poil dedans ou avec un petit dépassement. Sachez qu'on a quand même fait en sorte de pouvoir couvrir ce projet-là, et même si vous savez comment ça fonctionne, il y a un tour de table, il y a des tours de table avec des partenaires ou des cofinanceurs éventuels. C'est d'ailleurs ce tour de table et ces cofinanceurs, ils existent, ils sont pour la plupart déjà depuis le début dans le projet scientifique. C'est la genèse de ce projet, c'est 2017-2018. Projet scientifique et culturel, 2 ans, avec la DRAC, les musées de France, l'ensemble des partenaires, pour arriver à quelque chose où on se posait déjà la première question qui était, est-ce qu'on laisse le musée à cet endroit-là? Il n'est pas interdit de se poser toutes les questions. Est-ce qu'il s'appelle encore comme ça? Qu'est-ce qu'on y fait, etc. Et puis ensuite, un cabinet, Vitam, qui quantifie ça, qui fait un cahier des charges. Et puis ensuite, un concours, d'abord sur référence, 89, ensuite les 5 ou les 4. On donne 15 000 euros à ceux qui ont perdu, mais qui ont travaillé, et puis on en garde un. Donc c'est vraiment un process assez long, hein, 2017-2018, on est en 2022. Mais vous avez raison de dire que, et on est très vigilant là-dessus, qu'il faut essayer de rentrer dans le budget. En ce qui concerne, le guide, je vais laisser parler Philippe de Marnix là-dessus, mais... j'ai noté, où est le musée? Oui, c'est vrai. On va à l'office du tourisme, on n'est pas de Mont-de-Marsan, on pose la question, où est le musée? Alors qu'on est à 150 mètres. Ça, c'est une... Alors, là, il était fermé, je crois qu'il n'est pas forcément fermé, tout ça, vous en parlerez, mais ça soulève quand même, c'était pas le sens de votre... Mais ça soulève quand même aussi le cahier des charges et la volonté que l'on a de rendre ce musée plus ouvert sur la ville, plus visible, etc. Aujourd'hui, on y arrive par l'arrière. Quand on arrive de l'office du tourisme, bon, c'est un peu Koh-Lanta pour y aller. Il faut que ce soit un peu plus ouvert sur la ville, notamment côté donjon, qu'on le voit, etc. Donc c'est tout ce travail-là qui a guidé le cahier des charges pour que un jour on n'ait plus à rentrer à l'office du tourisme. Où est le musée, quoi? Faudrait que ce soit naturel, il faut que ce soit un bâtiment phare de notre cœur de ville. Ça rentre également... Je tiens à le préciser, dans l'action cœur de ville, parce que là, on parle de culture et voilà, on peut se passionner pour ces œuvres-là, on peut en être fier. Plus de 2400 sculptures, pratiquement plus de 10 000 arts plastiques et autres œuvres et peintures. Mais c'est aussi un vecteur d'attractivité du territoire, un vecteur pour l'office de tourisme, etc. C'est quelque chose qui peut aussi nous amener du monde. Et ça, dans la redynamisation du cœur d'agglomération et du cœur de ville, c'est un des pans de... Je pense qu'on aura peut-être des échanges en fin de sujet là-dessus. C'est un des pans de l'action cœur de ville. Et ça nous permet aussi de pouvoir retirer des subventions liées à ça. Sur la partie véritablement activité du musée pendant, etc., je vais peut-être laisser Philippe de Marnix en dire un mot.
Merci, monsieur le maire. Et merci, Mme Cavagnier, pour votre adhésion à ce projet. Je préciserai juste sur la partie budgétaire, ce qu'il faut quand même le savoir, c'est que sur les 5 projets qui nous ont été soumis, un seul respectait à peu près, peu ou prou, l'enveloppe initiale, mais par contre, il ne respectait pas du tout les attendus du projet scientifique et culturel, donc il était écarté. Il était dans la plaque, mais il ne faisait rien. À la limite, il était dépensé 8,5 millions pour avoir le même musée. Les autres projets non retenus étaient plutôt au-delà encore de celui que nous avons retenu. Et puis, comme l'a dit monsieur le maire, donc, nous avons déjà identifié certaines pistes de moins-value. On va continuer à travailler pour respecter au mieux l'enveloppe prévue, ça, bien évidemment. Pour ce qui est de l'activité du musée, il y a juste un point, le musée est fermé pour des raisons que vous comprendrez bien. Je rappelle tout de même, et vous le savez, puisqu'on a échangé déjà à ce sujet, qu'il y a des expositions en cours, notamment l'exposition actuelle sur les ateliers de sculpteurs, Lyric et Charbonnel. Ensuite, il y a une exposition dans le cadre du festival IERAS, donc on essaye autant que possible, malgré les contraintes lourdes liées à cette fermeture, à ce déménagement, de maintenir une activité dans le musée. Il y a aussi tout un programme, on en reparlera en commission culture aussi, d'activités de musée hors les murs, sur lequel donc, les équipes du musée, Mathilde qui est ici, travaillent aussi. Donc on fera en sorte effectivement que le musée ne soit pas mort, même si le bâtiment sera fermé pendant les ans à venir. Et on sera tout à fait disposé à en discuter ensemble en commission culture à votre demande. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, mais on fera tout pour que le musée continue à exister et pour permettre un meilleur redémarrage dès 2025. Merci.
Je n'ai pas répondu à une de vos questions, après je vous passe. Sur le fonctionnement, oui, parce que bon, faire un beau musée et pas pouvoir le faire fonctionner, compliqué. Alors, deux ou trois pistes et deux ou trois infos. Oui, le prévisionnel de fonctionnement en effectif, en fluide, en consommation, tout a été fait, parce qu'on se refuse à se lancer dans un investissement sans savoir après comment on le fait fonctionner. Il faut quand même savoir, même si on va vers un doublement de la surface d'exposition et une amélioration aussi des conditions de conservation des œuvres dans les réserves, le fait d'augmenter ça, on va aussi vers une très forte amélioration des conditions de consommation d'énergie et autres. Aujourd'hui, c'est une passoire, le musée. Donc, ça ne veut pas dire que ça va tout compenser. Mais il y a cet aspect-là qui fera que ce n'est pas parce qu'on double d'un côté qu'on double de l'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Et après, tout ce qui est manutention, aujourd'hui, je voudrais saluer quand même le travail des équipes de notre directrice, Mme Le Cuillet, parce qu'on leur demande de faire des miracles, à faire de la manutention, aller d'un côté à l'autre, dans un donjon du 15e qui n'est absolument pas fait pour ça, même si c'était une excellente idée d'avoir ce musée ici. Mais qui requiert quand même des efforts, de l'imagination pour essayer de trouver, de faire tourner les collections. Vous avez bien compris que notre sujet à nous, c'est une chance énorme, c'est pas forcément d'aller chercher des œuvres ailleurs, même si on fait de l'expo temporaire pour renouveler. C'est aussi de faire tourner les œuvres qu'on n'arrive pas à toutes montrer, ou alors si on les montre dans des conditions trop resserrées, ça passe plus. Donc cette manutention et ce travail-là, il est quand même à saluer, mais on peut pas durer comme ça. Et là aussi, c'est pas parce qu'on double qu'on va doubler les efforts, peut-être même au contraire, tout a été fait. Nous avions dans les conseils avisé des partenaires qui sont avec vous, mais y compris dans le jury, des gens qui sont habitués à ça, qui ont déjà vu des musées fonctionner. C'est un fonctionnement bien particulier où il faut penser aussi à la manutention et à tout ça. Donc je ne dis pas que toutes ces économies-là vont permettre d'être à iso-fonctionnement, mais je vous dis que le doublement ne va pas générer un doublement des frais de fonctionnement. Mais bien évidemment, un effort sera à faire. Il y a une réflexion qu'on pourra avoir, pas à court terme, parce que nous sommes en capacité, la mairie de Mont-de-Marsan, de pouvoir le faire fonctionner. Mais il peut... J'ai eu l'occasion, l'été dernier, l'été d'avant, d'aller me promener... Je n'ai pas été à Ibiza, j'aurais aimé, mais j'ai été me balader à la souterraine ou à... ou Soulages ou autre, enfin, plusieurs musées qui sont de notre gabarit. Et on a tous les modes d'exploitation, municipaux, intercommunaux, départementaux. voilà, ou avec voilà, il y a plusieurs modes de fonctionnement. J'ai pas dit qu'il fallait tout repenser, mais on peut très bien quand même. Je suis pas certain que dans les années à venir, 5, 10, 15, 20 ans, ce musée-là, on en reprend pour 50 ans, hein, puisqu'il est là depuis 68, peut-être plus. Il y aura peut-être des... Si jamais il a un succès tel qu'on l'espère, eh bien, il faudra peut-être accompagner ce succès à plusieurs dans un système d'exploitation qui pourrait être un peu différent. Au moment où je vous parle, ce n'est pas à l'ordre du jour, parce que la municipalité peut encaisser le fonctionnement tel qu'on l'a prévu. Voilà. Je vous voulais parler... Vous vouliez... Allez-y.
C'est légitime, effectivement, d'évoquer la partie budgétaire et tout ce qui va être partie fonctionnement. Mais moi, je suis un tout petit peu rassuré tout de même, parce que depuis le 10 mars 2021, on a 1,5 million. D'ailleurs, on en est où, là, du 1,5 million qu'on doit récupérer? Parce que si on a dans les caisses...
Quel talent million, quel
oui,
talent.
Vous trouvez, vous aussi.
Ah ouais.
Si effectivement...
Vous me laisserez votre carte.
Non, mais attendez. Si, là, c'est intéressant que le domaine juridique qui est animé par Pascal Horry nous apporte des réponses sur la façon et les efforts qui sont faits pour récupérer 1,5 million. Alors, la dernière fois que vous en avez parlé, monsieur le maire, vous nous avez indiqué... On a adressé la première lettre recommandée, donc... Depuis le 10 mars 2021, on doit être au-delà de la première lettre recommandée. Est-ce que le titre exécutoire est émis? Enfin, on en est où de la récupération du 1,5 million?
Merci. Il fallait la placer. Vous avez essayé de trouver une transition qui est un peu alambiquée. C'est promis, je vous réponds là-dessus. Est-ce qu'on peut... Je vous promets, je vous réponds là-dessus une fois qu'on aura traité. Ce sujet est trop important. Ce sujet est trop important d'un point de vue culturel et en jeu pour le polluer avec ça, mais je vous réponds tout de suite après, c'est promis. Est-ce que vous aviez des prises de parole sur le dossier en lui-même? Vous vouliez vous exprimer?
Vous avez quel engagement concret? Parce que moi, je vais passer un dossier là où je siège, un dossier, petit bout. Il y a plein de choses, je ne suis pas sûr que tout aille au bout. Hein. Oui, parce que ça, il faut que vous mettiez tout sur la table à l'heure où on se parle.
Et moi, je sais que je peux compter sur votre soutien.
Mais vous pouvez. Mais quand je parle de ça, je parle de tous les dossiers que vous avez mis.
Oui.
Parce que vous demandez sur certains dossiers la consultation des Montois, et vous avez déjà fléché et dit comment les projets seraient. D'accord?
Non,
je ne vais pas développer.
Oui, sur ce dossier-là, non, mais je sais que je peux compter sur votre soutien dans votre mandat. Sur ce dossier-là, oui, un premier tour de piste a été fait. Vous imaginez bien que les partenaires principaux, ça peut être l'État, ça peut être le département, ça peut être la région, il y a aussi la DRAC, les musées de France, etc. Donc on a fait un premier tour de piste et on a aussi comparé ce qui se faisait en la matière, notamment sur ce type d'investissement. Donc on est, on va se dire les choses, à 10% près, on sait que ce budget peut être bouclé à condition aussi de réduire un peu les 22%. Mais voilà, donc il n'y a pas plus d'inquiétude que ça à avoir sur ce dossier-là. Et je vous remercie de votre soutien. Allez-y.
Oui, et pour compléter ce qu'ont dit mes chers collègues, sur l'évaluation des dépenses et des recettes de fonctionnement à l'avenir, vous avez une commission finance, une commission culture. N'hésitez pas aussi à nous faire collaborer sur le sujet, puisque, en plus, comme l'a dit Françoise, nous allons voter pour ce projet. En ce qui concerne le mode de gestion, vous avez évoqué l'ouverture d'une réflexion sur... ce qui pourrait être un mode de gestion ultérieur. Si vous pensez à l'intercommunalité, pensez d'abord à assainir les finances de l'intercommunalité. Si vous pensez au département, là, à voir, parce que aujourd'hui, préparer un dossier que vous aurez choisi avec un montant que vous aurez défini pour ensuite demander aux autres de gérer, c'est pas forcément très cohérent.
C'est pas ce que j'ai dit. On se place sur le très très long terme, et je vous dis ce qui se pratique autour de nous. On a plusieurs différents modes de gestion qui sont propres au territoire, aux capacités des uns et des autres, et aux volontés politiques des uns et des autres. Mais pour le moment, on est en capacité de pouvoir le faire fonctionner. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de le soumettre au vote. Donc sur ce dossier, donc c'est la délibération numéro 2. Donc il s'agit dans cette délibération de désigner le groupement Vurpas, c'est comme ça qu'on l'appelle, lauréat du concours de maîtrise d'œuvre, lancé dans le cadre de l'agrandissement de la modernisation du musée d'Espiot-Vléric. Bien évidemment aussi de dédommager ceux qui, les candidats qui n'ont pas remporté ce concours. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Donc je vous réponds donc par rapport à l'intervention qui avait été faite avant de passer à l'autre délibération. Oui, nous avons écrit au trésorier. Aujourd'hui, c'est entre le trésorier et le créancier, en l'occurrence le cinéma dont on parle. Donc, oui, débiteur, pardon. Oui, merci. Le débiteur et le trésorier doivent se parler, j'imagine. Oui. Mais nous avons fait ce qu'il fallait, et juridiquement, donc, en faisant tout ce qui allait bien, lettre recommandée, etc.
Oui, mais la lettre recommandée, ce n'est pas suffisant. La lettre recommandée, c'est rien.
Et on a émis le titre. On a émis un titre.
Ah, voilà, c'est ça que je veux savoir. Mais le titre, il est émis à quelle date? On peut me le dire?
Il me semble qu'on l'a fait très rapidement.
Le titre a été émis et il y a un recours par le grand club contre le titre, devant le tribunal administratif.
Bien.
Et donc, aujourd'hui, c'est entre les mains du tribunal administratif, et il appartient à l'agent judiciaire du Trésor de faire le nécessaire s'il veut recouvrer ou pas.
Alors ça, c'est magnifique, mais on l'apprend là comme ça, entre la poire et le dessert. C'est-à-dire que ce que vous venez de nous expliquer là, c'est que...
Le recours date de cette semaine, hein. c'est pas très vieux.
Ah bon? Alors le recours date de cette semaine, mais pour faire un recours contre un titre, il y a des délais. Donc ça veut dire que le titre, il n'a pas dû être émis il y a 8 mois quand même, hein, pour que le recours il ait été fait cette semaine. Donc ça flotte. Je voudrais savoir, moi, quand est-ce qu'a été émis le titre, parce que si le recours a été émis hors délai, on n'a pas beaucoup de soucis à se faire par le grand club. Mais si le recours est recevable, ça veut dire que le titre est extrêmement récent. Et donc, pourquoi est-ce que le titre est extrêmement récent, puisque la décision, elle est du 10 mars 2021 et qu'on attend 1,5 million?
Alors, je vous obtiens les informations au fur et à mesure.
Je suis quand même assez étonné parce que...
Le titre, alors si vous permettez...
Non, mais monsieur le maire, c'est pas un petit dossier.
Non, mais j'entends.
Non, mais attendez, je trouve que...
C'est un dossier qui vous tient à cœur, manifestement.
Non, ça ne me tient pas plus à cœur qu'un autre. Comme effectivement élu Montois et citoyen Montois, effectivement, 1,5 million de ma poche, parce que c'est comme ça qu'il faut raisonner, ce sont des deniers des habitants de Mont-de-Marsan, oui, ça peut intéresser un certain nombre de personnes. Et très sincèrement, lorsqu'on s'intéresse à son budget, et vous demanderez à n'importe quelle ménagère... Eh bien, lorsqu'elle a 150 ou 200 euros dehors, elle essaie de les faire rentrer. Nous, on n'a pas 150 ou 200 euros dehors, on a 1,5 million dehors depuis bientôt un an. Donc, je trouve que ça serait intéressant qu'en qualité de maire, vous soyez quand même informé de l'état de ce dossier, parce que c'est assez rare qu'une collectivité comme la nôtre attende une rentrée de 1,5 million.
Allez, je vous réponds.
Oui.
Donc un premier titre a été émis en suivant, c'était au mois d'avril ou mai. Il a été mis au siège du cinéma, le siège du cinéma. Ce titre a dû être réémis parce que l'adresse du siège n'est pas au siège qu'il fallait l'adresser. C'est cela ? Attendez, s'il vous plaît. Non, attendez.
Peut-être dû en parler à Katimira, elle aurait fait le recours.
Je comprends que vous ayez envie de faire votre publicité.
Excusez-moi, mais c'est pas le service juridique qui s'occupe de ça.
S'il vous plaît.
Quand même, recours au siège de la société, quand même, ça c'est quand même un béaba. Hein,
on va essayer d'arrêter le Dutain Show. Le titre a été mis au mois de novembre. Là, le titre rectificatif. Donc vous avez le titre qui a été mis en novembre, mais sachant que donc après il y a une démarche qui est faite du cinéma avec la trésorerie, tout simplement.
Donc, ça veut
mais
dire...
on est dans les clous, on a émis le titre.
Non, mais je comprends très bien.
Après, je comprends que vous ayez cherché...
Ça confirme ce qu'on me disait.
Vous cherchez
donc,
à être...
Non, je ne cherche rien du tout. Ce qu'on me dit, effectivement, c'est que depuis mars, où nous avons commencé à poser des questions sur le point de savoir comment ça marchait, on nous a dit qu'il y a une lettre recommandée, il y a un titre qui a été émis. Manifestement, le titre, il a été émis, non pas au siège de la société, mais là où se trouve le cinéma. Bon. Très bien. Et donc, vous me dites que ça a été fait rapidement, et on attend novembre pour émettre un nouveau titre.
Ça a été rectifié, okay. En novembre, c'est fait.
Je voudrais quand même redire une fois encore que ce n'est pas le service juridique qui émet des titres.
Mais c'est tout de même... Mais celui qui émet les titres, c'est bien quand même vos services qui lui donnent les instructions.
Monsieur Duterte.
Non, mais c'est une question simple. Qui donne les instructions ?
J'aimerais bien qu'on ne passe pas son temps dans cette assemblée à taper sur les services, etc. D'accord ? Ce n'est pas le but du jeu. D'accord ? Je pense que vous êtes quelqu'un d'irréprochable. Voilà. Ce service, ce titre, il a été émis. Dans un premier temps, il a été mis sur une adresse qui n'est pas la bonne. Il a été rectifié ensuite. Je vous garantis que les choses sont faites. Et aujourd'hui, soyez rassurés, le titre a été émis. Nous sommes en règle.
Monsieur le maire, ce n'était pas pour perdre ou gagner du temps. Dans un sens comme dans l'autre.
Non, ne soyez pas.
C'est une erreur.
Ne soyez pas médisant.
Non.
Je comprends que vous ayez été un peu bousculé par les premières interventions de ma collègue au début. Restons calmes. Attendez, on va essayer d'arrêter. On vient de parler d'un dossier qui est un dossier majeur, qui nous réunit. J'aimerais qu'on en reste là. Sur le reste, soyez confiants. Ce titre-là a été émis. Il y a eu un décalage qui est uniquement lié à ça. Je ne pense pas qu'il faille non plus. Voilà. J'ose espérer que dans toutes les procédures que vous connaissez, les délais sont plus rapides que ça. Je crois que ce n'est pas toujours le cas. Hein, et on n'est pas toujours. Voilà. On a le droit aussi d'avoir cette erreur-là. Et je ne voudrais pas taper en permanence sur les services sur ces sujets-là. Et je pense que ce n'est pas ce que vous souhaitez non plus. Je ne vous répondrai pas. Hein, donc allez-y,
non,
mais on
mais
va faire
dans
doucement.
Les propos de M. Duterte, il n'a pas tapé sur les services. Non, mais non.
Il demande qui ?
Il demande qui ?
Mais non, qui ? Ça a été rectifié.
Et deuxième remarque, crois qu'on devient.
Il a tapé, notamment sur le service juridique.
Allez, non, s'il vous plaît. Il a demandé qui c'était, faisait. Il n'a pas dit. Il n'a pas mis en cause, allez. C'est pas vrai. Et donc, on devient des spécialistes pour chercher des adresses à la ville de Mont-d'Arsan. Je vous félicite.
Très bien.
C'est la deuxième fois sur des dossiers très importants.
Très bien, très bien. Je vous propose de passer à la délibération suivante. Et donc, la délibération suivante, c'est Marie-Christine Arambat qui va vous la présenter. C'est une délibération, d'ailleurs, qui a été vue aussi en Conseil d'Aglo, il me semble, où nous avons la convention de mutualisation de la Direction générale des services entre Mont-de-Marsan Agglomération et la ville de Mont-de-Marsan, entre le CCAS et le CIAS. C'est bien celle-là ?
Non.
Alors, le don d'œuvre. Alors, je ne suis pas dans le bon ordre. Donc, le don d'œuvre. Allez-y, Philippe.
Il s'agit maintenant de voter l'acceptation par notre Assemblée de plusieurs dons d'œuvres artistiques effectués au cours des dernières années, ou bien à venir, en faveur du musée d'Espiau Vlérique. Unique en France, la collection de sculptures figuratives françaises du musée d'Espiau Vlérique se développe depuis 1968 autour de l'œuvre de Charles d'Espiau et de Robert Vlérique, ainsi que nous venons de l'évoquer à l'occasion de la précédente délibération. Formant désormais un ensemble fourni couvrant la période du milieu du XIXe siècle à l'époque contemporaine, elle est devenue la collection généraliste de référence dans son domaine. Ces dons provenant pour la plupart des familles ayant droit des auteurs témoignent de leur attachement à notre musée et du rayonnement, s'il vous plaît, et du rayonnement de celle-ci. Elles permettront de compléter et enrichir la collection en s'intégrant au nouveau parcours permanent en cours d'élaboration dans le cadre du chantier de rénovation et d'extension dont nous venons de parler. Il est donc proposé d'accepter en don les œuvres suivantes. Un lot de 33 œuvres de Clément Dastanière, un portrait réalisé par Charles Bigonnet, un lot de 4 bustes réalisés par Marcel d'Amboise, un lot de 2 bustes de Berthe Langlois réalisé par Charles d'Espiau, un portrait en médaillon réalisé par Marcel Mérignargue, des éléments décoratifs réalisés par Georges Sopic, un dessin de l'athlète allongé de Robert Vlérique, donc vous avez dans les pièces jointes vous avez les visuels de ces œuvres, et le musée intégrera également dans ses collections le Rajkar, offert par la ville de Gyumri en Arménie, dans le cadre du projet de jumelage entre nos deux villes. Pour vous apporter quelques précisions, le terme Rajkar désigne une stèle commémorative gravée, emblématique de l'art arménien. Ce monument commémoratif du génocide arménien, qui a fait plus d'un million de victimes, sera installé dans le parc Jean Rameau et inauguré le 2 avril prochain pendant le festival culturel arménien Yeraz. Nous vous invitons à venir vous y rendre. Voilà, donc, monsieur le maire, sauf si quelqu'un a des questions et des remarques à ce sujet.
Merci, Philippe de Marnix. Est-ce qu'il y a des points que vous voulez souligner sur ce don d'œuvre ? Vous avez compris que c'était des œuvres qui étaient données au fil de l'eau, et là, c'est une régularisation. Le fait aussi de faire ces travaux nous impose un certain travail de mise à jour, d'inventaire, de recollement et autres, et ça en fait partie. Sur cette délibération, y a-t-il des voix contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. Donc la délibération suivante, c'est la délibération du renouvellement de la convention d'objectifs et de moyens. C'est celle-là ? oui. pour la période 2022-2024 entre la ville de Mont-de-Marsan et l'école de musique. Et je passe la parole à Claude Ibrec.
Oui, merci, monsieur le maire. Bon, je vais vous donner quelques chiffres. À l'échelle du département, le conservatoire, c'est 1816 élèves, 99 enseignants, 35 disciplines. À Mont-de-Marsan, il y a 298 élèves, 292 de Sormontois. En plus des cours classiques, au collège Jean Rostand, il y a une classe à horaire aménagé théâtre et une classe à horaire aménagé musique. Alors, les termes de la convention pour les trois années à venir sont pratiquement identiques à ceux de la convention précédente. Et en particulier, la contribution financière de la ville reste la même, 357 551 euros par an, même s'il y a eu une légère baisse des effectifs. Voilà. Donc, nous vous demandons d'approuver les termes de cette convention et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document relatif à l'exécution de cette délibération.
Merci, Claude Ibrec. Y a-t-il des questions par rapport à cette délibération ? S'il n'y a pas de questions, je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. La délibération suivante, c'est la délibération, celle-ci, donc pour Marie-Christine Arambat, de modification de la convention de mutualisation entre la DGS, le CCAS et le CIS. Marie-Christine Arambat.
Merci, monsieur le maire. Donc, Mont-de-Marsan Agglomération et la ville de Mont-de-Marsan se sont rapprochés en 2015 pour créer un service commun qui a été appelé Direction Générale des Services. En 2018, cette mutualisation a été étendue au CCAS et à l'heure actuelle, la convention est reconduite jusqu'au 31 décembre 2026. Ce service commun permet de répartir les moyens humains au sein des différentes structures, de fluidifier le fonctionnement des services et d'améliorer leur efficacité dans les domaines de compétences qui leur sont dévolus. Il est proposé aujourd'hui d'intégrer le CIAS dans ce dispositif. Le Conseil communautaire a validé ce projet lors de sa dernière séance le 13 décembre 2021. Et donc, il est demandé à l'Assemblée ce soir d'approuver la mutualisation de la Direction générale des services entre Mont-de-Marsan Agglomération, la ville de Mont-de-Marsan, le CCAS et le CIAS.
Merci. Délibération qui était le parallèle de ce que nous avons vu à l'aglo. Y a-t-il des remarques ou des prises de parole ? Monsieur Ara.
Oui, monsieur le maire, merci. Je voudrais d'abord féliciter Marie-Christine Arambat, qui a été élue à la surprise générale, mesdames, messieurs, vice-présidente du CCAS. Rappelez-vous, je ne vais pas vous faire l'historique des épisodes précédents, mais c'est quand même très révélateur du mode de fonctionnement et de la valeur de la parole que donne monsieur le maire en séance publique. Donc, je vous fais les épisodes précédents. On se rend compte que pour continuer d'enlever des délégations à Marie-Pierre Gazot, il fallait aussi l'enlever à l'expérience du CCAS. Je rappelle juste qu'on s'indemnité. Évidemment, elle a appelé les services pour s'indemnité. On lui a dit on a eu ordre de ne pas vous donner d'indemnité. Sûrement un mensonge des services, évidemment. Mais certainement. Non, bien sûr. Non, jamais. Ensuite, CCAS.
On est dans le domaine de l'imagination, là.
Oui, mais.
Allez-y.
Marie-Pierre, cet agent a menti, ça tombe bien, elle s'en va d'ailleurs, une de plus. C'est pas grave. Sur le CA du CCAS, donc, on nous explique, je dis la dernière fois, c'est pas compliqué, vous voulez mettre Marie-Christine Arambat, vice-présidente du CCAS, faites-le, vous avez le droit de le faire. Vous nous dites non, et vous nous faites voter une délibération fausse, avec trois affirmations fausses. Premièrement, de nombreuses demandes d'associations d'intégrer le CCAS, zéro. Deuxièmement, des problèmes de quorum, zéro. Et troisièmement, on a le nombre minimum de membres, c'était faux également. Et donc, on arrive au conseil d'administration du CCAS. Pour les réunir valablement, il fallait faire un appel à candidature des associations. Affichage en mairie, sur le site internet, ça n'a pas été fait, malgré les négations écrites de monsieur le maire.
Ça a été fait, je les tiens à votre disposition.
Oui, vous savez que c'est faux, monsieur le maire. Vous savez que ça n'a pas été affiché. Voilà. Bon, très bien.
On vous les fera passer.
Ben oui, mais c'est faux. Ensuite, appel à la candidature des associations. Tenez-vous bien, un mail a été envoyé aux associations le 29 décembre pour leur demander de se porter candidate. Elles avaient jusqu'au 31 décembre pour le faire. Ce n'est pas une blague. L'arrêté de nomination des associations a été pris le 3 janvier.
Heureusement qu'elles avaient postulé avant, on n'a pas attendu le 31 pour avoir des candidats.
Bien sûr. Nombreuses associations, ce qui est faux, d'ailleurs vous êtes incapable d'en donner.
C'est passionnant.
Oui, c'est passionnant. Oui, parce que ce que vaut votre parole, c'est passionnant. vous êtes incapable d'en donner une seule. Et à l'arrivée, je, par amitié pour ceux qui sont nommés, je ne ferai pas de commentaires, mais franchement, c'est une plaisanterie. Et donc arrive le conseil d'administration du CCAS où, à la surprise générale et malgré vos dénégations, monsieur le maire, avec la sincérité qui est la vôtre, Marie-Christine Arambat se présente en ayant dit qu'elle a été sollicitée. Franchement, tout ça pour ça, je vous repose la question, pourquoi ne pas tout simplement dire la vérité aux gens qui sont autour de cette table, aux gens qui nous écoutent? Ce serait tellement plus simple. Et pour moi, vous allez dire que c'est des chicayas, ça n'est en rien des chicayas. Quand on vote un texte faux, volontairement faux, que l'on dit des choses fausses, ce n'est pas un chicaya, c'est quelque chose qui mord comme un mode de fonctionnement. Sur le fond de cette délibération ensuite, là aussi, ce n'est pas vrai, il n'y a pas de fuite des cadres. Effectivement, vous venez de recruter un nouveau directeur du CIAS. Rappelez-vous, l'ancien directeur était parti se rapprocher de sa compagne qui vit en centre-ville de Saint-Pierre-du-Mont. Donc effectivement, c'était loin. Et donc, un nouveau directeur est recruté. Mais le poste est-il resté vacant un an ? Non, il y en a eu un autre entre-temps. Mais on lui a dit aussi de partir. Et on en prend un nouveau qui déjà lorgne sur notre poste, pourtant déjà occupé dans la collectivité. Franchement, comment est-ce qu'une collectivité peut fonctionner avec une telle valse des cadres, des agents? Et vous parlez franchement de ne pas taper sur les élus tout à l'heure, mais un peu de décence par pitié, de ne pas taper sur les services, un peu de décence quand on voit tout ce qui se passe dans la collectivité, un peu de décence, le nombre de départs qu'il y a, le nombre d'élus qui sont mal, d'agents qui sont mal, le nombre de cadres qui cherchent ailleurs, qui arrivent et qui repartent au bout d'un an. Par pitié, ne faites pas le coup de ne taper pas sur les services. Moi, je suis assez estomaqué de tout ça et je vous le dis, je suis vraiment inquiet pour le fonctionnement de la collectivité.
Très bien. Alors, on y va. Il y a le fond et la forme. Sur la forme juridique, je vous invite à nous remettre en cause la procédure et à le faire. Et on
vous poser des questions
pour lesquelles vous avez pas répondu. Vous verrez bien que tout a été respecté. Il n'y a pas de sujet. Enfin, en tout cas, voilà. Sur votre espèce de digression qui tourne sans arrêt, on a l'impression qu'on est un petit peu dans une espèce de... Moi, je ne suis pas là pour régler des comptes, etc. Je suis là pour avancer. Et on a l'impression, en vous écoutant, que tout d'un coup, depuis que vous n'êtes plus là, la Terre s'est écroulée et que les problématiques RH sur une structure de 1450 personnes apparaissent comme ça au grand jour parce que nous aurions... un mode de fonctionnement qui ferait... Voilà. Il ne vous a pas échappé qu'on démarre un audit. Donc on pourra d'ailleurs vous répondre par rapport à ça, pour voir s'il y a plus de cadres aujourd'hui qui s'en vont qu'avant. Il est toujours facile d'agiter le torchon en disant, voilà, le torchon brûle, etc., en voyant ceux qui partent. Moi, je pourrais aussi vous dire qu'on recrute, qu'il y a des gens qui restent. Il y a même des gens qui partent et qui reviennent, vous voyez. Donc voilà, et puis qu'après, quand on recrute un cadre, des fois... Lors de l'entretien, ça se joue en une heure, en deux entretiens, mais il peut y avoir aussi des choses qui ne se passent pas comme on le souhaiterait. Je pense que vous passez votre temps à agiter le torchon pour essayer d'agiter une espèce de catastrophisme ambulant. Vous usez de vos anciennes relations pour appeler les services à droite, à gauche. S'il vous plaît, si vous aimez ce territoire, arrêtez d'essayer de détruire l'action qu'on fait. Et arrêtez d'essayer de vouloir régler des petits comptes individuels et politiques, etc. J'ai passé une étape, là. Je ne suis pas dans cette disposition. Je peux même travailler avec tout le monde ici. Ce n'est pas un souci. Je sais que c'est votre métier. Arrêtez de ne penser qu'à ça. Hein ? Arrêtez de ne penser qu'à ça, d'essayer d'appeler l'un par rapport à l'autre, de dire, tu vois, trac. Arrêtez d'être un agent même de débauchage de certains cadres. Je pèse mes mots. Arrêtez. Si vous aimez Mont-de-Marsan, arrêtez. Alors, je sais que c'est un jeu, c'est la stratégie, c'est votre métier, vous êtes un professionnel. Je ne suis pas un professionnel en politique, mais je pense que l'intérêt général et l'intérêt du territoire méritent mieux que ça. Donc, après, nous faire votre démonstration du cours Florent, c'est catastrophique, franchement, c'est affligeant. Vous jouez très très bien la comédie, félicitations. Mais les gens qui sont ici, voilà, commencent un petit peu à la connaître, cette comédie. Donc arrêtez, travaillons ensemble, il y a des sujets. Madame Gazot, elle est peut-être plus vice-présidente, je rappelle de toute façon que le président, c'est le maire pour le CCS, et c'est le président pour le CIAS, donc le problème ne se pose pas. J'anime ces réunions aussi, j'y participe, mais elle est la bienvenue pour y travailler. Bon, ce n'est pas un sujet, d'accord ? Simplement, voilà, on ne va pas revenir là-dessus. Et vous avez été quand même un maître en la matière, on aime travailler, il faut travailler, les choses sont suffisamment difficiles, notamment dans le médico-social ou dans tous les domaines, et partout en France, on court après les infirmières, les aides-soignantes, etc. On a du mal à recruter, c'est vrai, il y a de la tension sur ces métiers-là. Il faut qu'on travaille aussi en confiance avec les gens. Donc il me semble que je travaille aujourd'hui avec quelqu'un en parfaite confiance, voilà. Mais c'est unique en ça. Et vous n'allez pas me faire des commentaires par rapport à ça, vous qui êtes un professionnel de tout ça, un professionnel de ces calculs politiques, de ces manigances, de ces appels par derrière, etc. Donc voilà, moi j'ai pas d'autres commentaires à faire sur ce sujet-là. Avançons. Vous savez que là, vous êtes en train de parler de poste, d'indemnité, on va régler ça, hein, pas de problème. Je ne donnais aucune instruction, je ne me permettrai pas là-dessus. Et encore une fois, appelez-moi, appelez le cabinet si vous ne voulez pas me parler. On est en train de parler de quoi, là? On est en train de parler de personnes qu'il faut accompagner pour du portage de repas à domicile, de personnes à la masse, de gens fragiles, de nos seniors, etc. On est en train de parler de ça. Et vous nous parlez délégation, délai de parution, qu'on a respecté, on vous dira. Vous nous parlez de tout ça. Arrêtez, je sais que c'est votre métier. Moi, ce n'est pas mon métier, moi. C'est mon engagement. Voilà, c'est la seule différence.
Vous avez terminé votre...
Attendez, Monsieur Bachet, s'il vous plaît. Monsieur Bachet, et après... Non, parce que franchement,
je serai relativement bref. C'est pas la première fois que vous allez m'entendre sur cette question de mutualisation, puisqu'on en parle. Ça serait bien de faire un véritable bilan, savoir où on est parti, où nous en sommes. Ce que vient de nous dire Mathieu Hara, personne ne peut le nier. Il y a effectivement une valse de cadre. Ça, c'est une chose. C'est une réalité. Il y a un malaise chez le personnel. Vous l'avez reconnu, puisqu'on a mis une commission en place au niveau notamment du service scolaire. Mais moi, ce que je souhaite, parce qu'effectivement, question notamment du CIAS et du CCAS, c'est une question importante parce qu'on parle après derrière de personnes, c'est le service rendu, comment on l'organise, comment on fait. Mais je vais vous rappeler, M. Hara, avec toute l'amitié qu'on peut avoir les uns pour les autres. Vous ne pouvez pas continuer à nous faire ce cinéma ici, dans cette instance, en restant dans le même groupe politique. Moi, si je me fâchais avec mon camarade Jean-Baptiste Savary ou mes camarades... je partirai, je me désolidariserai du groupe. Faites-le, comme ça, il y aura la clarté. Vous ne pouvez pas signer les mêmes tribunes sur le dernier mag. Ce n'est pas possible. Excusez-moi de vous le dire. Comme ça, si on se fâche, on s'en va. On se sépare. On assume. Moi, j'assumerai. Nous assumerions les uns les autres. Faites-le, comme ça, les choses seront claires et on ne prendra personne en otage. Je le dis très tranquillement, personne ne sera pris en otage. Et les choses seront extrêmement claires et limpides. Moi, je vous invite à y réfléchir.
Merci, M. Bachet. Je vais y réfléchir, effectivement.
Allez-y, M. Hara.
Merci, M. Nair. Je vais y réfléchir, effectivement. Je pense avoir une liberté de ton qui veut dire beaucoup de choses. Après, si vous pensez que mon nom en bas d'une tribune change beaucoup de choses, OK. Dont acte, peut-être. Monsieur le maire, vous êtes extraordinaire. Vous avez le don de reprocher aux autres vos propres turpitudes. Vous parlez d'être un excellent comédien. En parlant de vous, ça me rend... Bon. Est-ce que ce que je vous ai dit était faux? Est-ce que la dernière fois, en séance, oui ou non, vous nous avez dit non, on ne fait pas ça pour élire Mme Arambat? Oui ou non? Bon. On était quand même tous là. Ça marque un mode de fonctionnement important. Ensuite, je ne joue pas de comédie. Alors, votre truc, c'est je suis un professionnel. Ben, écoutez, oui, j'ai eu comme métier pendant 9 ans d'être directeur des cabinets de cette collectivité, cette ville que j'aime passionnément, pour laquelle j'ai toujours travaillé. Et ensuite, j'ai été pendant 4 ans chef des cabinets de Mme Darrieussecq. J'en suis très fier. Voilà, c'est mon métier. Je ne suis pas le seul dans cette salle. Il se trouve que ça ne l'est plus, que j'en ai changé. Voilà. Des gens qui vivent de leur mandat, ce n'est pas mon cas. Qui vivent d'une indemnité politique, ce n'est pas mon cas. Voilà, ça l'a été, ce n'est plus mon cas. Et je ne vois pas ce que ça a à faire là-dedans. Moi, je suis sincère quand je vous parle avec mon cœur. Vous m'expliquez que je ferai des stratégies, des ceci, des cela, mais monsieur le maire, Oui, faisons un audit sur les RH. Rappelez-vous quand même de ce qui s'est passé.
Je vous propose de synthétiser, on va passer à autre chose.
Oui, mais vous avez le droit de tout dire, y compris d'attaquer les personnes, comme M. Tintelin, mais il ne faut pas vous répondre. Mais malheureusement, quand on donne, il faut savoir recevoir.
Concluez. C'est important.
Oui, je poursuis. Ce que je veux vous dire, et je le dis, c'est que la collectivité, si vous croyez tous que tout va bien, tant mieux.
Très bien.
Si vous pouvez vous balader dans cette ville en voyant des gens qui vous disent que tout va bien, tant mieux. Si vous pensez que les cadres vont bien et que la collectivité tourne, tant mieux. Ce n'est pas mon point de vue. Il y a des gens qui vont mal. Je ne comprends pas l'indifférence au mal-être des gens. Je ne le comprends pas. Sincèrement, les gens, vous les connaissez. Vous savez qui c'est. Vous savez ce qu'ils vivent. Et vous vous en moquez. Je ne comprends pas que humainement vous puissiez vous en moquer à ce point-là. Franchement, sur la base de les postures, tout ça, ça n'a rien à voir avec la politique.
Vous savez très bien
ça
que ce n'est pas le cas.
Ça n'a rien à voir, c'est de l'aspect humain.
Vous continuez
à le faire et à couper des têtes dans cette collectivité.
Vous savez très bien que ce n'est pas le cas et contrairement à vous, je ne passe pas mon temps dans un.
Moi, je passe mon temps
en train de passer des coups de téléphone. Je suis sur le terrain.
Vous passez votre temps à passer des coups de téléphone, à voir les uns les autres.
On va peut-être
Monsieur le maire,
avancer, s'il vous plaît.
Reprochez ce que vous faites.
Très bien.
Et factuellement, vous ne répondez à rien parce que vous savez que c'est.
Est-ce qu'on a voté cette délibération, qui est la délibération présentée par Madame Arambat? Non. Alors, tout le monde s'est exprimé. Est-ce que sur cette délibération, vous avez des voix contre? Est-ce qu'il y a une abstention? Une voix contre, Madame. Une abstention, Madame Lafitte. Je vous remercie. La délibération suivante, c'est pour Christophe Fourcade. Oui. On est sur le virement de subvention d'équilibre.
Merci, Monsieur le maire. Afin de couvrir les dépenses de fonctionnement et pour équilibrer le budget annexe du projet de renouvellement urbain pour 2021, il est nécessaire d'opérer une subvention d'équilibre provenant du budget principal 2021. Ainsi, pour 2021, celle-ci s'élèvera à 469 945 euros et la dotation complémentaire de 30 000 euros par rapport à la deuxième décision modificative de 135 000 euros déjà passée permettra de couvrir les frais supplémentaires nécessaires à la démolition du bâtiment de la SCI SAGE.
Cette délibération, au-delà d'être simplement une subvention d'équilibre, elle est importante parce qu'elle... Elle nous aborde le sujet du bâtiment qui est à Rosanoff, la SCI SAGE, sur laquelle il y a bien évidemment un sujet qui a un peu duré parce qu'il a fallu respecter les occupants et notamment dans les indemnités d'éviction et autres. Mais c'est un sujet qui maintenant peut avancer puisqu'on sait que sur ce premier quadrimestre, peut-être même avant, nous allons pouvoir dans un premier temps raser ce bâtiment délabré, ouvert au grand vent et qui gêne tout le monde à tout point de vue. Donc voilà, cette délibération, au-delà de son aspect budgétaire simple, elle a du sens aussi par rapport à ça. Est-ce que quelqu'un est contre cette délibération? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Une abstention, Mme Lafitte, je vous remercie. Christophe Fourcade, sur une délibération RH.
Elle concerne le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés en cas de cessation définitive d'activité. En principe, le statut de la fonction publique territoriale ne permet pas, pour des congés non pris, de verser une indemnité compensatrice aux agents stagiaires ou titulaires. Néanmoins, la jurisprudence, qu'elle soit de droit français ou européen, affirme aujourd'hui que les congés annuels non pris lors d'une cessation de la relation de travail, qu'il s'agisse d'une mise à la retraite pour invalidité ou d'un décès, doivent désormais être indemnisés. Ainsi, les congés annuels non pris avant la fin de la relation de travail, du fait de la maladie, doivent faire l'objet d'une indemnisation dans les limites suivantes. La première, c'est une indemnisation qui est fixée à 20 jours maximum par année, et l'indemnisation n'est rétroactive que sur les 15 derniers mois. Pour résumer, et sans rentrer dans le détail de la méthode de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, cette délibération permet l'indemnisation des congés annuels non pris lors de la cessation de la relation de travail en raison de maladie, de motifs tirés de l'intérêt de service ou du décès de l'agent.
Donc sur cette délibération, avez-vous des questions? Pas de questions particulières. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Hervé Bayard, c'est la délibération concernant la cession du terrain situé rue Lépine.
Oui, merci Monsieur le maire. Donc en effet, on s'était déjà prononcé sur cette question puisqu'il s'agissait de céder à l'Association des musulmans un terrain dont nous sommes supposés faire l'acquisition, terrain qui nous sera cédé par le ministère des Armées. On était parti du principe que la voirie avait la même valeur que le terrain du constructible, ce qui n'était bien sûr pas le cas. Et donc, ce qui nous amène à revoter cette délibération avec un prix d'acquisition qui est modifié, puisque dorénavant, le prix d'acquisition s'élève à 9 129 €, à la fois le terrain et à la fois les frais de géomètre. Voilà donc.
Donc, c'est une rectif où on inclut les frais de géomètre à l'intérieur de ce prix de cession. On en avait discuté de cette délibération et on attendait un document que j'ai eu tout à l'heure, puisque j'étais en contact avec le commandant de base, un document qui nous permet de libérer définitivement et de passer cet acte, puisque vous savez que dans ces zones-là, quand il y a des cessions, il faut avoir une expertise de déminage, etc., éventuelle. Quoi. Voilà, donc on a cette autorisation qui nous permet d'avancer, de permettre à cette association de pouvoir se faire un parking digne de ce nom. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. La délibération suivante.
Hicham s'abstient.
Ah oui, pardon. On note que M. Lamsika participe pas au vote ? Participe pas au vote, pardon. Oui, pardon. Merci. La délibération suivante, elle concerne le rapport concernant le stationnement. Gilles Chauvin.
Merci, Monsieur le maire. Comme tous les ans, on doit faire un rapport annuel des recours administratifs préalables obligatoires. Vous savez que deux redevances sont applicables par les usagers pour payer leur stationnement au réel avec un paiement immédiat et forfaitaire, ce qu'on appelle le forfait post-stationnement. En cas de contestation de ces amendes, pour parler simple, les personnes qui sont peuvent faire recours auprès de l'administration dans le mois qui suit la prescription des amendes. Selon la procédure qui est mise en place par l'article 2 de l'article R2333, dénomination de la commune, cas échéant, dénomination d'un tiers conducteur, les moyens humains, ainsi que les moyens financiers et les indicateurs relatifs. Pour mémoire, il y a eu 5 967 FPS délivrés en 2019 et 48 recours ont été déposés. Ceux-ci sont analysés par les ASVP, qui à peu près à 2 par mois. Et vous avez le tableau qui vous récapitule les recours qui ont été donnés à Mont-de-Marsan.
Il y a des questions sur ce point ? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de soumettre au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. On a terminé. En questions diverses, vous souhaitiez qu'on aborde, Madame Lafitte, vous nous avez envoyé quelque chose hier, mais on doit pouvoir vous donner quelques infos. Je vous laisse le préciser.
Oui, encore une fois, toutes mes excuses pour le retard avec lequel j'ai demandé cette information. C'était un point sur la dynamisation du centre-ville, faire un rappel du nombre de cellules achetées par la mairie, combien étaient occupées, quelles étaient les perspectives d'occupation de ces cellules. Je ne l'ai pas précisé dans le courriel, mais j'aurais bien aimé avoir aussi des informations sur le rôle du chargé de mission qui avait été recruté spécifiquement pour ce sujet-là. Le manager de centre-ville, voilà. C'est la novlangue, je pense. Voilà, avoir un peu un point de situation.
Allô, ça marche là ? Ouais. Bon, merci Mme Lafitte, ça va nous permettre de faire un petit point sur la redynamisation du centre-ville et où on en est à l'heure actuelle. Je vais essayer d'être assez rapide, mais quand même, pour vous donner quelques chiffres que m'a recommuniqué cet après-midi M. Malati, le manager du centre-ville avec qui on travaille en permanence. Sur les vacances commerciales en début 22, dans le parcours marchand, c'est vraiment les rues principales de Mont-de-Marsan, c'est-à-dire Gambetta, Cordelier, Bastia. Le taux de vacances est de 10,8%, c'est-à-dire 24 commerces vacances sur 220 cellules. Dans le cœur de ville, donc avec un périmètre plus large, c'est 10,5% de taux de vacances, 45 locaux sur 425 cellules. Pour rappel, au printemps 2019, on avait un taux de vacance de 20,5% et fin 2020, 15%. Donc on est dans une dynamique à l'heure actuelle de reconquérir un certain nombre de places commerciales sur le centre-ville et sur le parcours marchand. Sur le flux de commerce, en 2021, on a eu 22 ouvertures de commerce, 13 commerces et artisans, 3 commerces qui font de bouche et 6 services, et 9 fermetures ou déplacements. Donc un flux positif, un solde positif, pardon. En 2022, ouverture à prévoir, là, dans les semaines qui viennent, une enseigne de restauration Pitaya qui va s'installer juste près de la mairie. On est à l'heure actuelle en discussion également, c'est un petit peu un serpent de mer, mais je crois qu'on va arriver au bout sur les Halles pour reconquérir un peu ces Halles avec des investisseurs avec qui on est en train de travailler. Je ne peux pas vous donner pour l'instant plus de renseignements parce qu'on est bien sûr contraint de ne pas dévoiler les noms des personnes qui vont investir, mais je veux dire, on est en train de travailler, on était encore avec monsieur le maire hier soir, avec des investisseurs pour redynamiser ces Halles au niveau du centre-ville. Je pense qu'on tient pour l'instant quelque chose d'intéressant. C'est pas encore fait, mais on tient quelque chose. Départ connu de Vred, mais ça, c'est pas nous qui le font partir, puisque c'est le national qui a décidé de fermer un certain nombre d'enseignes, dont celle de Mont-de-Marsan. Acquisition de locaux. Alors, on était rentré dans une stratégie d'acquisition, pas pour faire de l'immobilier. C'est pas le rôle de la municipalité de faire de l'immobilier. C'était de se dire, quand un local commercial se libère, essayer de l'acquérir pour essayer de faire venir des commerces qui nous intéressent en centre-ville, hein, et essayer de cibler un petit peu plus et éviter également les concurrences déloyales entre les uns et les autres. Donc c'est pas facile. Donc on a eu 4 emprises pour en tout cas le 6 locaux qui ont été acquis. Rue Frédéric Bastiat, on a avec nos services acheté ce local de 60 mètres carrés pour 90 000 euros et on a fait une thématique tester vos commerces. Et vous savez, le commerce s'appelle La Félicita, qui a des aides, qui a un loyer modéré. C'est pour mettre justement ces commerçants le pied à l'étrier et les aider pendant un an, renouvelable un an, et voir après si le commerce fonctionne ou pas. Donc on fera le bilan à la fin de l'année 2022. On a acheté l'immeuble qui est aussi à l'angle de mutualité Bastia-Gambetta. On a revendu les étages à un investisseur qui va faire des logements. C'était dans un état extrêmement délabré, vraiment des logements en très très mauvais état. Et là, on va pouvoir reloger de façon intéressante des familles. Et le bas de ce local, c'est le petit restaurant L'Endroit, vous savez, qui est rue Frédéric Bastiat. Et là, on a également un repreneur qui serait prêt pour reprendre ce commerce, L'Endroit Déménagement, elle. La patronne de l'endroit allant s'installer entre le divan et l'entracte. Vous voyez, il y a une espèce de... Voilà. Hein ? Oh, oui, oui, voilà. Très bien. Non. Merci, M. Dutin. Alors, on a toujours aussi ces deux locaux de caractère ICODE, le rue Bastiat, qui sont de très, très beaux locaux commerciaux qu'on a achetés. Et on est en train de discuter avec d'éventuels repreneurs et avec la SATEL également, qui sera un porteur de projet. Là, on a fait un appel à projet, on a 3 ou 4 personnes qui seront intéressées. On n'a pas encore le résultat de ça. Mais là aussi, c'est dans la même dynamique, c'est de ne pas faire n'importe quoi n'importe où. On essaye d'être assez cohérent. C'est pas facile, hein, dans le milieu commercial. Voilà un petit peu pour le Pick and Cheese aussi. Vous savez, Pick and Cheese, vous voyez où c'est derrière, je sais pas où on est là, c'est à côté du vendeur de truites, là. Là aussi, on s'est porté acquéreur de ce local. C'est pas très cher, 85 000 euros. Pour l'instant, on n'a personne qui s'est positionné parce que les gens attendent que le projet Nouvelle Galerie sorte pour pouvoir faire quelque chose. Mais je crois que c'est un site intéressant dans toute cette rue-là, qui sera une rue commerçante. Là, on pense à l'installation d'autres commerces de bouche, en particulier boucherie, poissonnerie ou autre. Ouais. Mais là, c'est trop tôt. Mais il fallait qu'on prenne vraiment position sur cette structure. Pour 85 000 euros, on va pas mettre en péril les finances de la ville, mais on se garde quand même ça sous le coude, dans la mesure où on aura un renouvellement intéressant de toute cette structure avec nouvelle galerie. Ça, c'était pour répondre avec les chiffres. Au point de vue, après, philosophie sur la ville, monsieur le maire, on a parlé tout à l'heure quand on a parlé du musée. Je veux dire, il ne faut pas regarder tous les projets que l'on fait comme ça les uns de façon distincte par rapport aux autres. Tout doit s'intégrer dans une dynamisation de centre-ville. On l'a dit tout à l'heure, et moi j'étais très content que vous votiez pour le musée, parce que c'est pour nous quelque chose de très important que ce musée redevienne vers la ville et se tourne vers la ville. On a plusieurs projets comme ça qui vont réaménager le cœur de ville. C'est le musée, expert important, on en a parlé. C'est l'îlot Lolon, on est en train de travailler dessus avec les équipes, avec monsieur le maire, avec toutes les équipes. Là aussi, le travail avance bien. Je pense qu'on fera une information au prochain conseil municipal sur ce sujet. C'est le café musique qui va démarrer également. Donc ça, c'est pour nous quelque chose de majeur d'avoir gardé le café musique sur le centre-ville. Et après, il y a toutes les revitalisations et les restructurations des rues qui vont aller de pair. Parce que quand on va attaquer les nouvelles galeries, quand on va attaquer le musée, obligatoirement, M. Bayard et les équipes de M. Michaud vont s'attaquer au revêtement des sols et bien sûr à leur requalification. Et oui, lui, c'est M. Bayard qui le fera. Donc vous voyez, on est dans une dynamique globale. C'est ça que je veux dire. Ce n'est pas des petits projets isolés les uns par rapport aux autres. Il y a ça. Et puis il y a peut-être aussi, et ça c'est un débat, c'est de dire on est en train également de créer du logement en centre-ville. Vous avez vu récemment, nous avons regagné des habitants sur le centre-ville. Vous vous rappelez, il y a quelques années, c'était sous l'ancienne mandature, les anciens conseillers qui étaient avec nous, on nous avait reproché, entre guillemets, c'était même pas un reproche, on nous avait fait remarquer que c'était M. Simon à l'époque, qu'on perdait des habitants en centre-ville, ce qui était vrai à l'époque. On est en train de regagner des habitants, des familles reviennent s'installer en centre-ville. Pourquoi ? Parce qu'on a facilité l'habitat, on a facilité le stationnement et on a amené des services. Voilà, je pense qu'on peut pas, il faut faire les trois choses en même temps. Si on ne fait pas les trois choses en même temps, on n'est pas bon. Alors tout n'est pas parfait, il y a encore beaucoup de choses à faire, Mme Lafitte. On en est parfaitement conscient, mais dossier par dossier, on essaie d'avancer en cohérence pour tous ces dossiers. Voilà, je suis prêt à répondre à vos questions.
Merci Gilles Chauvin, allez-y.
Juste une demande de précision, vu que vous avez parlé des nouvelles galeries. On en est où de la transaction suite à la vente cet été pour l'euro symbolique? Qui en est le propriétaire maintenant? Est-ce que c'est toujours la commune ou est-ce que ça a été, l'acte a été officialisé?
Peut-être Pascal Horry veut répondre par rapport à ça. La question, c'est savoir où est-ce qu'on en est de recours éventuel ou du processus Nouvelle Galerie, c'est ça, globalement?
Oui, du processus de vente. Qui est propriétaire à l'heure actuelle des Nouvelles Galeries ainsi que des lots qu'on a vendus en même temps que...
Là, c'est la ville qui est propriétaire. La ville qui est propriétaire.
C'est la ville.
Oui, qui est toujours propriétaire puisque il y a un engagement d'achat, mais il est aussi soumis à un certain nombre de conditions. Hein, et notamment, il y a eu un dépôt de permis de construire. On va rentrer après dans le cadre de l'étude et l'instruction de ce permis de construire, avec différents recours qui peuvent avoir lieu. Donc voilà, aujourd'hui, on est propriétaire du site.
Et pour
de ce site-là et du site aussi qui fait l'objet de la résidence étudiante.
Et, voilà. Et des cellules commerciales qui sont encore...
Alors, dans les cellules commerciales, de mémoire, nous avons justement celles de Devrède, et nous avons celles aussi qui sont sur le côté... Voilà.
Donc, comment se fait-il que certains commerçants n'aient pas pu accéder à leur local commercial puisqu'il était verrouillé et que les serrures apparemment avaient été changées ou au moins c'était fermé de l'intérieur et que le compteur électrique était sous scellé ? Dans un local dont nous sommes, enfin dont la mairie est propriétaire.
Ouais, alors. Vous parlez de Devrède sans le vouloir nommer. D'accord. Voilà, ça a été remis. Pourquoi ? Parce que donc, alors, je ne sais pas si on peut le citer. Donc, c'est le magasin dont on parle de vêtements. Qui appartient à une chaîne nationale, qui a une stratégie de fermeture de magasins en France, donc qui avait demandé il y a un certain temps au niveau du siège la coupure du compteur à une date précise qui n'est pas la bonne. Donc c'est en fait eux qui se sont trompés. Donc tout a été coupé, il y a un rideau métallique, etc. C'est ça qui a permis de voilà. Et ça a été ils sont intervenus de suite pour le. Mais c'est en aucun cas lié à une décision de la mairie. Hein. C'est celui qui est abonné d'ailleurs, c'est pas la mairie, c'est le siège de Devrède qui se situe, je crois, en Bretagne ou quelque chose comme ça. Et ça a été remis en suivant. Donc il n'y a pas de scellé, il n'y a pas tout ça. C'est tout simplement une maladresse de la part de leur siège qui avait programmé la fin de ce magasin puisqu'il est appelé à s'arrêter. Hein, d'ailleurs, il avait demandé à ce qu'on ait une prolongation jusqu'au 31 janvier. Et ils ont dû programmer la fin de l'abonnement électrique trop tôt par rapport à la fin d'exploitation. La fin d'exploitation de ce magasin a été négociée. J'ai eu, moi, personnellement, le siège de Devrette, je crois que ça se situe dans l'ouest de la France. Et ils nous avaient demandé une fin au 31-12, avec une dérogation pour que le mois de janvier puisse leur permettre une liquidation post-fête de leur stock, ce que nous avons accordé. Et je pense qu'il y a peut-être eu un micmac et une mauvaise interprétation, en tout cas avec les... Il y a eu un courrier sans doute qui est parti du siège auprès du fournisseur d'électricité avec une coupure de courant qui était prématurée, mais qui n'est en rien liée à notre fait.
Oui, au-delà de la coupure de courant, il y a quand même le fait que la personne n'a pas pu rentrer dans le magasin. Deuxième question sur ça,
on le regrette.
En lien, comment ont été négociées justement ces fins de baux pour les commerçants? Puisqu'on était lié à eux par des baux et qu'on vend les locaux, comment ça a été négocié avec les commerçants?
Devrait aurait pu encore rester un petit moment, et c'est un choix qui est fait par eux de mettre fin, comme ils le font, je crois, dans 5-6 magasins en France, une logique aussi peut-être de modèle économique, donc de mettre fin à ce magasin, tout simplement.
Pour les autres, ce n'est pas nous
qui avons... imposé à Devrette de partir. Et en ce qui concerne les autres, c'est une négociation qui doit avoir lieu entre le groupement, donc le groupement lauréat du projet, et les occupants actuels, il en reste quelques-uns, des magasins. Mais en ce qui concerne le magasin dont vous parlez, il y a eu une décision unilatérale de leur siège d'arrêter l'activité, qui était d'ailleurs indépendante du sujet des nouvelles galeries.
Je crois que vis-à-vis de cette enseigne de Vred, je crois qu'on a joué le jeu à fond pour eux, parce que notre bail finissait le 31-12. Donc on pouvait dire 31-12 fini, plus de Vred. Sauf que M. le maire et nous-mêmes, on a vu l'enseigne, on leur a proposé un bail précaire d'un mois, et on aurait pu proposer également, s'ils l'avaient voulu, un bail précaire de plus longue durée, le temps que les travaux démarrent, comme les autres enseignes qui sont installées, Moumoucho en particulier, qui travaillent. Donc c'est une décision du siège de la société d'arrêter le Devrède à Mont-de-Marsan, ça c'est clair. Et ça, malheureusement, nous, on peut pas agir là-dessus. On était prêts à tout faire pour continuer cette activité au moins pendant le temps, avant que les travaux démarrent. C'est une possibilité juridique qui était possible pour nous. Et donc, on leur a proposé déjà un mois de plus. On était prêt à faire plus, mais le siège a dit niet, c'est fini. On ferme 5 ou 6 enseignes en France. On le regrette. On le regrette pour les personnes qui travaillent, bien sûr. Mais je veux dire, ça, on n'y peut pas grand-chose. Voilà.
Est-ce que vous aviez d'autres remarques, Madame Lafitte? C'est bon. On a essayé de répondre au mieux.
Oui, je vous remercie.
Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie. Ah, il y avait une prise de parole, non? Pardon. Bonne soirée à toutes et à tous.